Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre deuxième série concernant la démonologie. Nous arrivons à l'étude numéro 7 et le titre sera « La profanation du temple de Dieu ». Notez tout d'abord 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, eh bien, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi qui sont en bois, en terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage courant. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Il sera sanctifié et il sera utile à son maître, propre donc à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, versets 19 à 21, j'ai pris cela dans ma version allemande, mais c'est à peu près pareil chez vous. Donc, constamment, dans tout le Nouveau Testament, nous sommes exhortés à nous purifier nous-mêmes et à nettoyer ce vase que nous sommes. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé un terrible prix sur la croix pour que nous puissions nous éloigner de l'iniquité et devenir des vases d'honneur. Je répète, le Seigneur Jésus-Christ a payé, lui, un très grand prix sur la croix pour que nous, vous et moi, pour que nous puissions nous éloigner de l'iniquité, du péché, et devenir des vases d'honneur. Ce nettoyage est nécessaire dans deux domaines. Le premier domaine est celui de notre nature de péché. Nous devons maîtriser notre nature de péché et cesser de pratiquer activement le péché. En deuxième lieu, nous devons éliminer deux temples de Dieu, c'est-à-dire de nous-mêmes, et nous devons donc vraiment éliminer toute impureté. Je crois que le temple de Dieu n'est pas seulement profané par notre participation active au péché, mais aussi par la présence des démons. Vous savez, c'est pas parce que nous croyons que ça n'existe pas, mais il est une réalité que les mauvais esprits sont autour de nous tous les jours. Ceci nous conduit à poser cette question âprement débattue. Est-ce qu'un chrétien pourrait avoir un démon qui demeurerait en lui? Eh bien, je crois que l'Écriture sainte nous montre très clairement que cela est malheureusement possible. Voyons cela de plus près. Les démons ne peuvent pas sauter, bien sûr, sans autre, à l'intérieur d'une personne, et cela à chaque fois qu'il le désirerait, car nous bénéficions d'une protection afin qu'il ne puisse pas pénétrer en nous tant que nous ne faisons pas de brèche dans cette barrière de protection. Il est dit dans Ecclésiaste, au chapitre 10, verset 8, « Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Donc le péché renverse la muraille et ainsi ouvre une porte aux démons, aux mauvais esprits. Donc, comment pouvons-nous faire une brèche dans cette barrière protectrice? On l'a compris, c'est par le péché. J'appelle les péchés qui permettent l'entrée des démons les péchés qui profanent le temple. Pourquoi? Parce que le problème fondamental est le suivant. Lorsque on parle de la présence des démons dans les chrétiens, est-ce que le temple de Dieu, que nous sommes, vous et moi, pourrait être profané? Dans l'affirmative, voyons comment les Saintes Écritures définissent le terme profanation. Pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord nous tourner vers l'Ancien Testament. Mais ne pensez pas que l'Ancien Testament est périmé et inutile. Il complète le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à son peuple, les enfants d'Israël, de nombreuses images qui leur permettaient de comprendre la venue de Christ et l'œuvre qu'il allait accomplir. Par exemple, par les offrandes pour le péché, ils pouvaient comprendre la nécessité de verser le sang innocent et de donner une vie pour payer le prix de leur péché. Les offrandes pour le péché donnaient donc une image poignante de ce que Jésus a accompli une fois pour toutes sur la croix. De la même manière, le temple de Dieu, bâti par Salomon, représentait l'image de ceux qui parmi nous sont entrés dans cette nouvelle alliance avec Christ. Nous sommes donc le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous exactement comme la présence de Dieu habitait dans le temple de Salomon. Revenons un peu en arrière à présent et regardons de quelle manière le temple de Salomon a été profané. Le temple lui-même faisait face au nord. Il est dit dans Ézéchiel 8, chapitre 8, verset 14, « Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. » Il était entouré d'un mur comportant deux portes, l'une dans le mur du nord et l'autre dans le mur est. L'autel d'airain, utilisé pour les offrandes pour le péché, ainsi que la mer de bronze, était placé devant le temple et le temple proprement dit était divisé en deux parties. La première partie, sur le devant, était appelée le parvis intérieur, ou si vous voulez, le lieu saint. Et la deuxième partie, à l'intérieur, était appelée le lieu très saint. La présence de Dieu demeurait donc dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. Le souverain sacrificateur ne pouvait pénétrer qu'une fois par année dans cette partie du temple. Après la mort de Salomon, son fils Roboam monta sur le trône. Mais Roboam refusa d'écouter les sages conseils. Il opprima le peuple de telle sorte que ce dernier se rébella. Et la nation d'Israël fut divisée en deux. La ville de Jérusalem était située dans le royaume de Juda et l'autre moitié du pays constituait le royaume d'Israël. Le roi impie fille qui s'appelait Manassé éleva au beau milieu du temple des autels qui ont été consacrés à des idoles démoniaques, à des mauvais esprits. Il bâtit donc des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 33 verset 5. Or à partir de ce moment, le Seigneur patienta tout de même, figurez-vous, près de 100 ans avant d'éloigner sa présence du temple, alors que sa maison demeurait profanée pendant de longues années. Le royaume d'Israël fut donc amené en captivité avant le royaume de Juda. Ézéchiel prophétisa parmi les captifs de Babylone. Il était contemporain de Jérémie qui prophétisa à Jérusalem. Dans les chapitres 8 à 10 du prophète Ézéchiel, le Seigneur transporta Ézéchiel en esprit, et cela de Babylone à Jérusalem, pour lui montrer la profanation de son temple. Alors il est dit dans Ézéchiel au chapitre 8, verset 3 jusqu'au verset 5, il est dit, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Ézéchiel 8, verset 3 à 5. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait cette idole, mais nous savons que les démons sont associés à chaque idole. L'apôtre Paul le dit de manière très précise dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 19 à 20. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il est donc très clair que les démons, les mauvais esprits, étaient présents auprès de l'autel d'airain en compagnie de l'idole. Par la suite, le Seigneur montre à Ézéchiel les murs entourant le temple, car le verset 10 nous dit ceci, Ézéchiel chapitre 8, verset 10. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes sur la muraille tout autour. Ézéchiel 8, verset 10. Quel était donc le but de ces dessins occultes qui ressemblaient à nos graffitis modernes? Il est bien connu dans toutes les formes de sorcellerie que des démons sont placés à l'endroit où se trouve un dessin occulte. Par conséquent, il y avait aussi des démons sur les murs qui entouraient le temple. Ensuite, Ézéchiel chapitre 8, verset 14, là il est dit, « Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. » La plupart des chrétiens ne comprennent pas la signification de ce fameux verset. Tout d'abord, vous devez comprendre que le but de tous les rites occultes, c'est d'attirer les démons pour qu'ils soient présents avec les hommes qui exécutent ces rites. Pourquoi donc ces femmes pleuraient-elles Tammuz? Elles participaient donc à une forme habituelle d'adoration des démons qui était pratiquée par les Babyloniens. Tammuz ou Tammuz était un dieu démoniaque qui était supposé être la réincarnation de Nemrod. Certaines Bibles disent Nimrod. Qui était Nemrod? Nemrod et sa femme Sémiramis étaient deux personnages qui ont conduit et mis en place l'adoration des démons après le déluge. Genèse chapitre 10, versets 9 et 10. Et cela par le brièvement de Nemrod. L'histoire antique nous montre du reste que Nemrod n'est autre que Ninus, c'est-à-dire le premier roi d'Assyrie, fondateur et constructeur de l'antique Babylone où avait été bâtie la tour de Babel. Nemrod était adoré en Égypte sous le nom d'Osiris. Ce sont les récits égyptiens qui nous décrivent la mort de Nemrod, qui fut une mort assez violente. Il semble qu'il ait été mis à mort par l'un des fils de Noé, c'est-à-dire par Sem, qui lui fit ainsi subir le jugement mérité pour ses abominables pratiques de culte aux démons. Si quelqu'un était profondément préoccupé par la mort tragique de Nemrod, c'était bien sûr sa femme Sémiramis. Sémiramis était issue d'une humble position. Elle avait été élevée jusqu'au trône de Babylone qu'elle partageait avec lui. Dans cette situation d'urgence, qu'allait-elle faire? Allait-elle accepter, sans broncher, d'abandonner la pompe et l'orgueil où elle avait été hissée? Eh bien non. Bien que la mort de son mari ait donné un rude coup à sa puissance, sa résolution et son ambition sans limite ne figurent aucunement et ne furent aucunement arrêtées, jamais. Bien au contraire, son ambition a pris un nouvel essor. Au cours de sa vie, son mari avait été honoré comme un héros. Par sa mort, elle ferait en sorte qu'il soit même adoré comme un dieu, voire comme la semence de la femme promise par Dieu. Zoroastre, qui devait écraser la tête du serpent et qui de ce fait devait avoir son propre talon écrasé. Dans le monde antique en général, les patriarches connaissaient parfaitement cette première grande promesse qui a été donnée en Éden. Il savait donc fort bien que le fait d'écraser le talon de la semence promise, cela impliquait que cette dernière meure et que la malédiction ne pouvait être ôtée du monde que par la mort du grand libérateur. Puisque la promesse que la tête du serpent serait écrasée avait été effectivement donnée à nos premiers parents, et qu'elle avait été consignée dans la Genèse, et puisque toute l'humanité descend de ses premiers parents, on pouvait donc s'attendre à ce que l'on retrouve au moins une trace de cette promesse dans toutes les nations. Il en est bien ainsi, on ne trouve aucun peuple ni aucune race sur la terre dont la mythologie ne le suggère. Ainsi, voyez-vous, Sémiramis a proclamé que Nemrod mort serait maintenant le libérateur promis par Dieu à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Or, peu après la mort de son mari, elle eut un fils qu'elle appela Tammuz. Sémiramis proclama que Tammuz était Nemrod qui était revenu à la vie, comme Dieu l'avait promis dans la grande promesse messianique qu'il avait donnée à Ève. À toutes les époques et dans toutes les conditions du monde, cette fausse mère a été adorée par son enfant sous des noms très variés. Sémiramis est devenue donc la reine du ciel. Elle reste encore de nos jours. Par conséquent, le fait de pleurer Tammuz ou Tammuz avait pour but de ramener Nemrod à la vie et ainsi d'inviter le démon adoré sous ce nom. Il a été présent avec ceux qui accomplissaient cette cérémonie. Par conséquent, nous voyons très clairement que les démons se trouvaient à l'intérieur de la porte. Je dis bien maintenant même à l'intérieur. Puis le Seigneur dit à Ézéchiel, il lui dit qu'il allait lui montrer la pire de toutes ces abominations. Ézéchiel chapitre 8 verset 16. Et il me conduisit, l'Éternel, dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Voyez-vous, l'adoration du soleil levant est une forme de culte démoniaque égyptien, parce qu'il s'agit de l'adoration du dieu égyptien du soleil Osiris. Nous avons vu que Osiris était le nom égyptien de Nemrod. Et là encore, le but était d'attirer les démons des démons pour qu'ils soient présents avec ses adorateurs. Ainsi, les démons se trouvaient directement présents dans le lieu saint du temple. Le passage de 2 Chroniques, chapitre 33, verset 5, cité tout à l'heure dans ce chapitre, est donc relatif à Manassé et nous a également clairement montré la présence des démons dans le temple de Dieu, avec la présence de Dieu qui n'avait pas encore quitté le temple. Donc les démons et la présence de Dieu étaient ensemble dans le même temple. Je crois qu'il s'agit là d'une image de ce qui peut nous arriver à tous. Et je crois que vous comprenez ou vous commencez à comprendre. C'est seulement après que Dieu ait montré à Ézéchiel toutes ses abominations qu'Ézéchiel a vu la gloire de Dieu s'élever hors du temple et de s'éloigner définitivement. Mais veuillez vous rappeler que je vous ai démontré plus haut, avant, comment cette profanation par les démons présents dans le temple s'était déroulée par intermittence sur une période de près de 100 ans. Finalement, Dieu a manifesté son jugement. Il a ôté sa présence du temple et le temple fut ensuite complètement détruit. Nous avons la preuve que le chrétien peut avoir un problème avec des démons. Regardons à présent le Nouveau Testament. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Ces deux versets, chers amis, sont manifestement adressés à des chrétiens. Par conséquent, s'il n'était pas possible que le temple de Dieu soit profané, ces versets ne figureraient pas dans la Sainte Bible. Je dis bien que ces versets ne figureraient pas dans le Saint-Livre. Ces versets lancent donc un sérieux avertissement. Ne permettez pas que votre temple soit profané. Si vous le permettez, vous finirez par être détruit si vous permettez cela. Il est donc intéressant de remarquer que le même mot grec est utilisé dans ces versets pour exprimer « détruire » et « profaner ».« Détruire » et « profaner ». Ce mot signifie aussi « endommager »,« corrompre », »,« détruire », »,« dégrader » et « dépraver ». Je crois que cela signifie que si quelqu'un permet que son temple soit profané, cela entraînera sa destruction. Par exemple, si quelqu'un s'engage dans des relations homosexuelles, lesbiennes et tout cela, non seulement il ou elle ouvrira la porte à des démons, mais il ou elle, il se peut que vous pouvez contracter éventuellement le sida. Il y a des preuves à cela. Le sida détruira donc tôt ou tard son corps physique, ce qui entraînera la destruction du temple. Un croyant qui est né de nouveau ne peut pas s'attendre à ce que Dieu le préserve toujours du sida s'il s'engagerait par exemple dans des relations homosexuel ou même pire, parce que ça existe, ni à ce que Dieu l'empêche de recevoir des démons. Du reste, j'ai été témoin moi-même quand j'étais jeune d'une femme dont le mari en ce temps-là devait se lever. Quand vous étiez boulanger, en ce temps-là, le boulanger devait se lever très tôt le matin. C'est pas comme aujourd'hui. Et j'aime pas beaucoup relater cela. Pas beaucoup. Il y avait un chien qui, après, elle le demandait dans son lit, Et vous pouvez peut-être imaginer la suite. Je n'aime pas du tout évoquer cela. C'est épouvantable, c'est grotesque et abominable. Voyez-vous, ça existe. Et ça existe aujourd'hui beaucoup plus que vous pensez. Beaucoup de personnes m'ont demandé si je pensais que cette destruction entraînait la perte du salut éternel. Oh, je n'ai pas de réponse à tout. Mais pour ma part, eh bien, je crois que le corps physique pourra être détruit. Mais que si c'est une personne chrétienne, parce que chrétiens, nous ne sommes pas parfaits, et nous commettons des choses pas toujours, et j'utilise un mot d'humour, pas toujours très catholique. Mais je crois que le corps physique, quand il sera détruit, mais que l'âme et l'esprit, malgré tout, iront auprès du Seigneur. Toutefois, voyez-vous, le croyant perdra évidemment des récompenses dans le ciel, car vous comprendrez qu'on ne peut pas tout de même, pas tout avoir. Je pense que vous comprenez cela. C'est déjà pas mal que le Seigneur nous accepte malgré certaines choses que nous avons pratiquées ou commises, et que malgré tout, il nous accepte. Mais on ne pourra pas naturellement avoir les mêmes récompenses dans le ciel que certains qui ont gardé leur corps pur. Mais c'est pas à moi de débattre tout cela. Dans les versets qui précèdent le passage que nous avons cité, l'apôtre Paul fait référence à ce problème-là. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15, « Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car ce jour-là, fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu, évidemment, éprouvera ce que est l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, eh bien, il ou elle recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, évidemment, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera tout de même sauvé, mais comme à travers du feu. Donc, je pense que c'est assez clair. Mais encore une fois, c'est quand même merveilleux comme Dieu a de la compassion pour nous et de l'amour. Certains milieux chrétiens diraient ils vont tous en enfer automatiquement. Eh bien, c'est peut-être pas toujours ou tout à fait comme ça. Parce qu'il y a des personnes de différentes dénominations chrétiennes ou même religieuses, où Dieu voit, où Dieu seul sait comment ça s'est passé dans leur cœur et ce qu'ils ont connu et pas connu. Et heureusement, c'est lui qui décide, car il sait tout. Et je dis parfois, avec mon humour, il est possible que nous allons rencontrer au ciel des personnes que nous ne pensons même pas qu'elles peuvent s'y trouver, et puis peut-être, j'en suis triste, bien sûr, quelques personnes qu'on était sûr, absolument, qu'ils doivent s'y trouver, mais que peut-être ils ne s'y trouvent pas. Oui, c'est quelque chose de sérieux. Nous entendons très peu de prédications sur certains versets, car les gens n'aiment pas penser qu'ils peuvent souffrir des pertes dans le ciel. Nous aimons penser que nous recevrons tous, tout un chacun, la même récompense, comme les Bavarois chantent à la fête de la bière, wir gehen alle, alle in den Himmel. Nous allons tous au ciel. C'est presque trop beau pour être vrai. Oui, eh bien, nous recevrons pas tous la même récompense, quoi que nous fassions ici-bas sur la terre. Ceci n'est absolument une chose à réfléchir. Peut-être que certains ne perdront pas leur salut, heureusement, mais s'ils permettent à l'impureté de demeurer dans leur vie, eh bien ils ne recevront pas les récompenses qu'ils auraient pu recevoir. S'ils avaient par exemple vécu une vie d'obéissance totale au Seigneur. Encore une fois, c'est pas à moi de juger cette chose, j'en serais du reste incapable. Chers amis, l'un des principaux arguments utilisés pour démontrer qu'un chrétien ne peut pas avoir de démon, c'est le suivant. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mais étudions un peu ce passage dans tout son contexte. Simplement dire que nous pouvons jamais être confrontés à un mauvais esprit, c'est presque trop beau pour être vrai. Notez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 18 où il est dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Il a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tant que ce passage s'adressait aux chrétiens de Corinthe, ce passage ne s'adressait pas à des ignorants dans la brousse. Et il est évident que certains d'entre eux avaient déjà conclu des associations contre nature. L'apôtre Paul leur demandait de purifier leur vie. Par conséquent, ce passage ne peut pas être utilisé pour prouver que les chrétiens ne peuvent jamais, qu'ils ne peuvent absolument pas avoir un mauvais esprit. C'est tout le contraire. L'apôtre Paul continue en écrivant au chapitre 7 « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Et ajoutez 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 à 21, où il est dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Il reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne de tout ce qui représente le péché. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi qui sont en bois et en terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil, ou un usage courant. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de toutes ces choses qui sont interdites, il sera un vase d'honneur, il sera sanctifié, il ou elle sera utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, versets 19 à 21. Pour terminer, nous devons nettoyer nos vases et purifier le temple de Dieu, c'est-à-dire nettoyer et purifier nous-mêmes. Il est donc clair dans l'Ancien Testament que l'Esprit de Dieu et les démons peuvent demeurer en même temps, on a vu, à l'intérieur du même temple. C'est pas moi qui le dis, c'est prouvé par le Saint-Livre. À mon avis, il est donc clair que les Saintes Écritures nous mettent en garde contre la profanation du temple de Dieu, c'est-à-dire de notre corps. Nous sommes sans cesse exhortés à nous purifier nous-mêmes. La suite de ce livre, eh bien oui, du Saint-Livre. La suite de la Sainte Bible a été écrite pour nous aider à obéir à la Sainte Parole de Dieu et à nous purifier. Voulons-nous, chers amis, laisser la moindre impureté demeurer en nous? Non, non, non. Et trois fois non. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour vous encourager, mais aussi pour votre, disons, pour votre éducation spirituelle personnelle. Voici, écoutez bien. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé selon Saint Jean chapitre 15, verset 7. Oui, mais il faut que nos lèvres traduisent le désir sincère du cœur. C'est au cœur, en effet, que regarde le Seigneur. Notez Proverbes chapitre 21, verset 2 et Saint Luc chapitre 16, verset 15. Vous parviendrez à l'état d'esprit où sa pensée ne vous quittera plus, dans la mesure où vous apprendrez toujours mieux à attribuer toutes les grâces et toutes les directions dont vous serez les bénéficiaires à sa sollicitude attentive à la pensée de votre maître. Pensée qui est à l'origine de tout, qui inspire tout, qui garde tout sous son contrôle et qui est pour vous la source de tout bien. Allez donc sans crainte de l'avant. Abordez le front de front toute difficulté, si grande soit elle-même, même insurmontable, peut-être, en apparence. Alors gardez votre sang-froid, quoi qu'il arrive. La force dont vous aurez besoin, que Jésus-Christ vous revête, pour adorer et pour aborder ce qui vous apparaîtra peut-être comme une aventure périlleuse, eh bien cette force vous rendra capable d'en sortir totalement vainqueur. Ne crains donc plus rien, car il est avec toi le Seigneur. Ne promène pas des regards angoissés, car il est ton Dieu. Il te fortifie et il vient à ton aide. Il te soutient de sa droite triomphante. Allez toujours, à nouveau, de l'avant. Sans peur aucune, le chemin vous sera tracé au fur et à mesure des besoins. C'est la peur qui obstrue le chemin du Seigneur à vos yeux. Alors n'ayez donc pas peur. Sachez simplement que tout est bien. Les circonstances du moment, les bouleversements extérieurs eux-mêmes ne sauraient en aucune façon vous nuire. Ils doivent être au contraire comme autant d'occasions de progresser, si du moins vos cœurs sont affermis parce que vous avez mis votre confiance dans le Seigneur et en lui, il n'y a pas de changement. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous recourons à toi dans le sentiment de notre misère morale et de notre faiblesse. Sachant que toi seul peux nous fortifier, nous protéger et nous bénir. Comme sans cesse, tu renouvelles sur nous tes bienfaits, nous devons sans cesse aussi t'en témoigner notre gratitude. Tu nous as donné des cœurs pour t'aimer, nous devons donc te chercher avec amour et confiance. Mais combien nous sommes loin, loin d'accomplir le commandement qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et cependant, à qui irions-nous ? Que à toi, Seigneur, pour nous défendre contre nous-mêmes. C'est dans notre propre cœur que sont nos plus dangereux ennemis. Garde-nous donc de notre faiblesse, de notre corruption. Délivre-nous de ton orgueil, de tout orgueil. Oui, de notre orgueil, excusez, et de toute confiance en nos propres forces. Fais, Seigneur, que nous marchions en toute humilité avec toi et que ta grâce ne nous abandonne jamais. Ô Dieu de notre salut, soutiens à chaque pas notre course, ne t'éloigne pas un moment de nous, car un moment suffit pour nous faire succomber. Affermis-nous quand nous chancelons, relève-nous quand il nous arrive de tomber, sauve-nous, car sans toi, nous périssons, que nous nous tenions toujours attachés à toi, ô Sauveur de nos âmes, pour t'aimer et pour t'imiter. Nous te supplions d'exaucer les prières que nous offrons pour nos familles et nos amis, pour les malades et les affligés. Soutiens-les, ô Seigneur, par ta puissance infinie, sois leur force, sois leur consolation, sois leur salut, et dans la vie est dans la mort. Reçois donc, ô Seigneur, nos supplications au nom et par le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et chers amis, n'oublions jamais de prier les uns pour les autres, car cela est de la plus haute importance. Souvent, nous avons peur d'utiliser de notre temps tellement précieux, évidemment, aujourd'hui où il y a tellement de choses, et nous n'avons plus le temps de prier. C'est une grave erreur. Alors, essayons de prendre un peu de temps, de prier les uns pour les autres, de apprendre à nous aimer les uns les autres. Et comme le Seigneur vous aime intensément, je vous dis de même, mes chers frères et sœurs, mes amis, je vous aime de tout mon cœur et je vous enlace et je vous embrasse tous et soyez bénis. À demain pour la suite de cette série. Au revoir mes très, très chers amis.